Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza, Quentin Duchemin, Audrey Guélou.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1 Écrire sur le web donné à l'UTC par Stéphane Croza. En WE1, on étudie le web sous plusieurs angles. L'angle théorique des technologies du web, l'angle pratique, on apprend à se servir d'outils du web en mettant en ligne un site web par exemple. On aborde aussi des outils méthodologiques et aussi quelques enjeux culturels et sociétaux du web. Et puis voilà, tous les supports de cours se trouvent sur librecours.net. Alors ce semestre encore, les étudiants et les étudiantes de WE1 ont constitué des groupes pour réaliser un projet qui consiste à publier sur le web un dossier thématique qui aborde une problématique technologique du web en utilisant les formats, les outils, les méthodes du web, c'est-à-dire en publiant des articles, des fiches de lecture, des interviews, etc. en ligne. Alors ce mercredi après-midi, mercredi prochain et puis dans deux semaines aussi, Graphite donc accueille tous les étudiants qui suivent ce cours pour qu'ils et elles puissent vous présenter leurs travaux. Alors si vous écoutiez Graphite en début d'après-midi, vous avez entendu Quentin Duchemin animer deux émissions pendant lesquelles deux premiers groupes d'étudiants et d'étudiantes ont présenté leurs travaux sur les thèmes de la Silicon Valley et de ses mythes et puis aussi sur les algorithmes de recommandation et leur éthique. Et donc on poursuit maintenant avec une troisième intervention, une troisième présentation cet après-midi. Et donc je suis en studio avec Rémi Recoquillet, Marin Luet, Nicolas Parmentier et Guillaume Gillet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous avez choisi de réaliser votre dossier sur le thème de la modération automatique. Et donc on va vous écouter nous présenter un exposé collectif à ce sujet. On va démarrer avec Rémi. Et donc les autres étudiants du TD sont à l'écoute de votre intervention. Ils ont pour mission de vous poser des questions sur Mattermost. On est dans le canal live et puis je vous relayerai ces questions au micro. Rémi, si tu es prêt, on te laisse démarrer. C'est à toi.
Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de notre intervention pour Radio Graphite, notre groupe souhaite évoquer, donc, comme l'a précisé Audrey, le thème de la modération de contenu en ligne, notamment à propos de la mise en place d'outils de modération automatique. Dans cet exposé de présentation, nous souhaitons montrer comment les outils de modération automatique répondent aux besoins des plateformes, que ce soit les sites web, notamment les réseaux sociaux, pour le contrôle de contenu en ligne. Forcément, la modération de contenu représente un nouvel enjeu pour de nombreuses plateformes en ligne, d'autant plus que à partir du moment où il y a des utilisateurs qui sont libres en fait, de poster a priori tout type de contenu sur le web, eh bien, on a forcément un problème de modération, de gestion de ces contenus en ligne. Avant de poursuivre, définissons déjà ce que sont des outils de modération. Robert Gorois, dans son article « La modération de contenu par algorithme, enjeux techniques et politiques pour la mise en place d'outils de modération automatique » paru en 2020, définit lui un outil de modération comme un ensemble de mécanismes de gouvernance qui structurent la participation des communautés pour faciliter la coopération en ligne, qui représente en fait l'objectif de ces plateformes, tout en empêchant les abus en ligne. Robert Gorois définit ainsi, comme on vient de le dire, des mécanismes de gouvernance, c'est-à-dire des actions pour empêcher ces abus en ligne. Il liste deux types de modération. On va retrouver la modération de type « hard moderation », qui consiste à mettre en place des actions autoritaires, comme par exemple la suppression de contenu, voire de comptes, s'étant livrés à des abus en ligne. Et ensuite, un petit peu moins répandu, mais quand même très important, sont les outils de soft moderation, qui sont des pratiques autour des recommandations ou de la mise en avant ou non de contenu. Ces outils sont plutôt utilisés lors de suspicions d'abus ou pour la prévention des abus. Dans ce cadre, définissant la modération, il est alors légitime de se demander quel est l'intérêt de la mise en place d'outils automatiques. J'ai choisi alors un extrait, un reportage de la CNBC paru en février 2021, intitulé « Why Content Moderation Costs Social Media Companies Billions », qui avance plusieurs pistes de réponse.
Every user-generated content platform will have content moderation problems. It's just a fact, whether it is dating apps or whether it is, you know, Peloton and people having QAnon hashtags in their usernames. There is just no escaping this now.
With debates swirling over how platforms moderate content and what is protected as free speech, one thing is clear. The online decisions have real-world implications for the businesses involved, for safety, and for the future of our democracy.
Comme l'illustre cet extrait, les enjeux sont grands, notamment au niveau de la sécurité, mais il y a aussi des enjeux démocratique autour de la publication de contenu en ligne. D'autant plus que, comme le précise l'extrait, dès qu'on a des usagers humains sur des plateformes, il y a forcément un souci de modération, même sur des outils sur lesquels on ne suspecterait pas, a priori qu'il puisse y en avoir. Avec un accès au web de plus en plus démocratisé, les sites web reçoivent chaque jour de plus en plus de requêtes d'interaction. Ainsi, cette augmentation de contenu représente et pose de sérieux problèmes pour les plateformes avec le plus d'utilisateurs. Certains messages haineux pourraient se noyer sous de centaines de milliers de nouveaux contenus postés à la seconde, et il est alors impossible de vérifier chaque post par un opérateur humain. Aussi, un contenu dangereux peut être republié sous différentes formes. C'est l'exemple que prend Robert Gorwa avec le tristement célèbre attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, durant lequel le terroriste a retransmis son acte en direct. Au-delà de la transmission en direct, il y a le problème en fait des republications par la suite. Et l'auteur de cet article a estimé que la vidéo du massacre a été mise en ligne au moins 1,5 million de fois en plus sur le net. Cet exemple démontre alors la nécessité d'une modération à l'échelle. Et c'est à cette problématique que le développement d'outils de modération automatique souhaite répondre. On passe alors d'outils de modération communautaire, on pense notamment aux premiers administrateurs humains, pour la modération de forums par exemple, à une modération automatique, généralement à base d'algorithmes avec des procédés d'intelligence artificielle, pour une modération à l'échelle, en accord avec le nombre grandissant d'échanges sur les plateformes web. C'est sur ces outils de modération automatique que va se concentrer la suite de notre présentée par la suite du groupe. Et voilà.
Merci beaucoup Rémi, merci écoute, pour cette première partie très intéressante, donc une première définition de la modération automatique, les principes, les enjeux que l'on rapproche de cette modération. Et donc en effet tu as parlé de la difficulté qu'ont les grandes plateformes de médias sociaux à modérer le volume de contenu haineux, le volume de contenu à grande échelle, hein, c'est ce souci d'échelle que tu mets en avant et c'est une raison en effet que l'on comprend dans ce sens. Alors, on a vu, si on veut essayer d'attaquer le problème de la modération par l'échelle, justement, on a vu dans le cours, hein, qu'il existait des médias sociaux alternatifs qui sont gérés à plus petite échelle. Donc, on pense à Mastodon, à PeerTube, tous ces médias sociaux du fait divers qui sont gérés sur des serveurs différents par des personnes différentes. Et dans ce cas-là, on peut se dire que bien la modération automatique ne serait pas nécessaire puisque donc on a plus ce souci d'échelle, hein, l'échelle des contenus publiés et réduit pour ce qui est de la modération sur un serveur en particulier, mais dans la modération, il y a aussi la problématique de modérer des contenus qui sont véritablement choquants. Tu parlais des contenus haineux, il y a des photos, des vidéos qui sont véritablement choquants pour la modération humaine, et donc le besoin de modération automatique que tu as développé pour répondre à une problématique d'échelle, est-ce que aussi dans ce que tu as lu, peut-être on parle de ce besoin de mettre en place une modération automatique pour protéger, disons, les humains qui s'occupent de la modération et pour essayer de les préserver au maximum de ces contenus choquants? Est-ce que tu as lu quelque chose à ce propos?
Oui, complètement. En fait, la première chose qu'on pense, et c'est là qu'on a développé ici, c'est l'accès justement du volume de contenu. Mais derrière, au fur et à mesure qu'on met en place ces outils automatiques, on se rend compte que ça permettrait en fait d'empêcher à des administrateurs humains d'être face à vraiment des contenus qui sont très choquants. Et en fait, d'abord les plateformes, on pense par exemple à Facebook, Twitter, etc. Leur première approche, c'était d'abord, pour gérer le volume, plutôt de faire appel à des entreprises, de sous-traiter en fait justement des administrateurs humains. Et donc en fait, on se retrouve avec des milliers de personnes qui se retrouvent à voir tout et n'importe quoi, et surtout des choses très choquantes sur le web. Donc en fait, ça a été la première réponse. Et du coup, c'est exactement cette modération automatique, elle répond à ces deux aspects. Le besoin, en fait, parce que matériellement, c'était presque pas possible de tout modérer. Et en plus, un deuxième besoin, c'est d'éloigner en fait les humains des contenus les plus dangereux et les plus violents.
Merci beaucoup Rémi, entendu. Merci pour cette réponse. Alors je vais remercier les trois questions que l'on a sur Mattermost, notamment voilà, de Corentin Jordan et 420, le pseudonyme. Je vais garder vos questions pour la suite puisque voilà, si tu nous as proposé Rémi une présentation assez générale, donc des définitions, des premières approches de la modération automatique, et dans la suite de votre intervention à tous les quatre, on va aborder des outils en particulier et puis certaines limites qui sont suggérées dans les questions. Donc merci à vos questions sur Mattermost, elles ne sont pas oubliées, elles seront reliées revient un petit peu plus tard. On va donc poursuivre avec la partie de Marin. Marin, tu as prévu de nous parler en particulier de quelques outils, donc de modération automatique. C'est à toi.
C'est cela. Bonjour à tous et à toutes. Merci Rémi et merci pour les commentaires. Je vais pour ma part vous expliquer quels outils existent actuellement. Mais d'abord, j'aimerais que l'on se demande où la modération automatique est la plus utilisée. La modération de contenu est essentiellement utilisée pour la gestion de contenu haineux, certes, mais il y a aussi tout un autre pan de modération auquel on pense rarement, à savoir l'application des règles de droit d'auteur. Ce sont ces deux pans qui mobilisent actuellement la majorité des contenus de modération. Quand on parle de modération automatique, on pense souvent d'abord aux IA, mais en réalité, le domaine est beaucoup plus vaste que cela. On a globalement deux catégories d'outils. Il y a les outils de matching et ceux de classification. Les outils de matching font correspondre un nouveau contenu avec d'autres contenus d'une base de données afin de déterminer si un média, donc du texte, des images ou par exemple des vidéos, est acceptable ou non. C'est souvent une manière assez simple de modérer automatiquement. Par exemple, on peut imaginer vérifier une phrase à partir d'une liste de mots haineux et on regarde si jamais l'un de ces mots haineux se retrouve dans la phrase. Les outils de classification, quant à eux, correspondent un peu plus au modèle de machine learning. En effet, ils se basent sur la prédiction. On entraîne une IA à détecter des patterns, puis on la teste jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau de reconnaissance qui nous convienne. Actuellement, les plus utilisés sont quand même les outils de classification. Voici quelques-uns des plus connus. Tout d'abord, nous retrouvons Perspective API, développé par Jitsou, qui est une filiale de Google Alphabet, qui a entraîné sur des logs, donc ce sont des traces écrites de ce qui s'est passé sur le site web, de modération de Wikimedia, et qui a pour but de donner un pourcentage sur 12 critères de toxicité. Ensuite, nous retrouvons Camembert, qui est une version francophone de Robert. Camembert est capable d'analyser des sentiments d'une entrée texte. Il est donc parfois utilisé afin d'éviter des publications haineuses. Je suis tombé sur un podcast en anglais sur Apple Podcast, qui est tenu par Practical API et qui parle justement de BERT, et j'aimerais bien vous le faire écouter.
Is create an encoder that will be pre-trained that you could utilize for various natural language tasks. So for example, like sentiment analysis or question answering or named entity recognition, these are all kind of natural language processing tasks. And so their goal is to create this pre-trained encoder that will essentially kind of be act as a language model or a model that understands the kind of structuring of words and the context of those that can be utilized as the first bit of other models for these other sorts of tasks.
Yeah.
Is that kind of, Chris, correct me if I'm wrong. Am I on the complete wrong track here?
No, I think you're right. I think they have some specific terminology they use. I think they call that a transformer, and the transformer is learning the contextual relation between words and text. And then it has two separate pieces to it. One is an encoder that's reading the text input, and then one's a decoder that is producing the prediction, you know, for whatever task you're applying it to. So I think the when you combine the encoder and decoder, they're calling that a transformer.
Yeah.
But I think everything you said was accurate.
Yeah. And I think what they're saying, because this isn't the transformer model, I guess, has been around for.
Donc, comme expliqué dans le podcast, le BERT est donc un outil NLP, donc qui arrive à comprendre le sens des mots, le sens des phrases. Donc, ils appellent ça une sorte de transcodeur d'une entrée texte à des sentiments. Donc, ensuite, nous retrouvons comme autre outil largement utilisé, Wetlab, qui est une IA qui a été rachetée par Twitter afin de détecter, par exemple, tout post affichant du contenu explicite. Donc, pour toutes les recherches, je me suis basé sur l'article que nous avons écrit sur notre site web. Donc, Algorithmic Content... aussi Algorithmic Content Moderation, Technical and Political Challenges in Automatization of Platform Governance, qui a été rédigé par Robert Gorwa en 2020. aussi que sur l'article « Analyse des sentiments avec Camembert » rédigé par un certain Olivier sur le site ledatascientist.com. Il n'y a pas de date, mais les commentaires datent tous de 2021 et 2022. Et enfin sur le Twitter de Wet Lab.
Merci beaucoup Marin pour l'explication donc de ces brossages des exemples d'outils de modération automatique qui existent. Alors tu nous as parlé notamment d'outils voilà, qui analysent les sentiments d'une entrée de texte pour éviter des publications haineuses. Tu en as abordé un autre qui détecte toute publication affichant du contenu explicite. Alors à partir de là, je vais te relayer une question qui en embarque deux, mais une question à propos de donc qui vient de Mattermost, qui vient de Corentin, qui se demande dans quelle mesure la modération automatique est efficace sans trop supprimer de contenu non problématique. C'est vrai que là, tu vois, cette question reprend le problème de savoir quels sont les critères vraiment pour définir voilà, qu'est-ce qu'une publication haineuse, à quel point, voilà, comment tout ça est défini, à quel point c'est efficace sans trop supprimer de choses non problématiques, donc d'avoir des faux positifs finalement. Et puis la seconde question que je voudrais te poser là-dessus, c'est est-ce qu'on a une forme de transparence? Est-ce que l'on sait? Est-ce que ces critères-là sont publics? Est-ce qu'on sait un petit peu comment ça fonctionne?
Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que le but des entreprises, le but des sites web est d'atteindre un objectif qu'ils se sont fixé. C'est pour cela que la majorité des outils de modération automatique sont des outils généraux qu'on implémente dans l'application qu'on est en train de fabriquer. Par exemple, Perspective API, c'est une API, donc ce n'est pas développé par exemple, si on crée un site qui permet d'échanger des commentaires, on va utiliser l'API qui a été développée par Google. Et vu que c'est une API, on peut l'implémenter comme on veut. Donc on peut se servir de cette API pour supprimer automatiquement tout message qui pourrait potentiellement être haineux si jamais notre but est vraiment d'être dans un endroit très 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 fermé et qui ne laisse pas passer de messages qui ne sont pas acceptés. Mais on peut aussi être plus souple, on peut notamment par exemple utiliser cet outil afin de détecter quel message pourrait potentiellement l'être et ensuite laisser un modérateur humain décider de si oui ou non ce contenu est problématique. Je ne me souviens plus de la fin de votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter?
Oui, Marion, écoute, c'est déjà une bonne réponse. Mais c'était, ma question, c'était à propos de la transparence de ces critères-là. Alors déjà, tu nous parles du fait qu'on peut finalement les configurer, jouer avec. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur de ces outils-là, on peut définir une modération plus ou moins restrictive, stricte, comme tu le dis. D'accord. Est-ce que tu souhaites compléter par rapport à la transparence ou on peut passer à la suite comme
oui,
tu le souhaites?
Je peux compléter sur la transparence. Alors, au niveau de la transparence, ça dépend vraiment du coup des plateformes. Donc, certaines plateformes vont expliquer comment est-ce qu'elles souhaitent gérer leur contenu. D'autres vont être un peu plus fermées. Je crois que Twitter est plutôt fermé. On ne sait pas trop comment est-ce qu'ils gèrent leur contenu. Généralement, on reçoit juste un message qui nous dit « votre message a été supprimé », sans forcément beaucoup de raisons. Voilà, je pense que ça répond à la question.
Ouais, merci Marin. Alors on a plusieurs questions qui arrivent à propos voilà, des problèmes éthiques liés à la modération automatique, du fait qu'on doute que les intelligences artificielles soient capables ou non de comprendre vraiment ce qui se dit. Alors je pense que Nicolas, tu vas nous parler justement de certaines limites liées à ces outils de modération. Donc merci encore pour les questions sur Mattermost. On va les relayer sans doute après, mais peut-être que Nicolas vous apportera déjà quelques pistes de réponse. Nicolas, c'est à toi.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, du coup, moi, je vais vous parler des limites de la modération automatique. Aujourd'hui, beaucoup d'algorithmes de modération automatique sont basés sur des intelligences artificielles qui ont donc des limites, dont les biais. En 2016, le moteur de recherche de Google présente une faille qui fait réagir. En tapant « trois adolescents noirs », le moteur de recherche présente des photos de personnes noires provenant d'affaires judiciaires presque uniquement. Cependant, en tapant trois adolescents blancs cette fois, ce même moteur de recherche présente des photos d'étudiants blancs et souriants. Cela fait scandale sur Internet et beaucoup d'internautes ont vite accusé Google de racisme. Donc on peut étudier un peu ça et on peut montrer que les causes de ces biais, elles peuvent être diverses. D'une part, les outils de modération automatique s'appuient sur des données et amplifient les biais de ces données. Ce type de biais, est nommé biais algorithmique. Amazon a par exemple annoncé en 2015 stopper l'utilisation d'une intelligence artificielle d'aide au recrutement de ses employés en raison d'un biais qui discrimine les CV féminins par rapport aux CV masculins, malgré des profils et des compétences similaires. Dans le cas du scandale de Google, une des explications pourrait être un traitement médiatique différent en fonction de la couleur de peau des mises en examen, qui conduirait à un nombre plus important d'articles portant sur des affaires reliées à des personnes de couleur, ce qui influencerait Google lors de sa recherche. Aujourd'hui, ce biais a été corrigé, donc ça ne marche plus, mais cela a nécessité une intervention humaine sur l'algorithme de Google. D'autre part, la façon dont les algorithmes fonctionnent eux-mêmes peut aussi être la source de ces biais. Cependant, le fonctionnement des algorithmes utilisés par les Google ou Facebook ne sont pas divulgués au grand public. D'après un article de Hubert Guillot en 2021 intitulé « Modération automatisée, le double enjeu du contrôle démocratique et de la transparence », chaque plateforme n'étant pas soumise à des règles et des lois concernant la modération, utilise des critères de modération arbitraires, ce qui peut conduire à des problèmes démocratiques et de transparence vis-à-vis des utilisateurs de ces plateformes. Par exemple, une modération qui diffère en fonction de l'utilisateur à l'origine du contenu illicite, en fonction de sa popularité ou de son statut médiatique. Alors, je vais vous proposer d'écouter un extrait du podcast « La modération, ce problème insoluble du web » paru en 2018 sur lesjours.fr sur le sujet de la modération des trolls sur Twitter.
Prenons l'exemple de Twitter, qui souffre lui-même d'un gros problème de trolls, ces nouveaux trolls dont je parlais, hein, qui sont beaucoup plus violents et qui sont en fait un autre nom pour parler de harceleurs. Hein. On va dire les choses comme elles sont. Alors pourquoi Twitter en particulier ? C'est parce que c'est un réseau social public. N'importe qui peut y lire et commenter des messages. Donc malheureusement, il est en fait très facile de se retrouver la cible de harceleurs qui auraient décidé d'en découdre avec vous pour une raison ou pour une autre. Donc Twitter, depuis des années, essaye désespérément d'endiguer ce problème. Ils n'y arrivent pas du tout, déjà parce qu'ils n'y ont pas mis les moyens et parce qu'ensuite ils y ont mis les moyens, mais pas comme il fallait.
Ouais, et puis ça n'a jamais été vraiment dans leur philosophie, ils n'aiment pas trop la modération Twitter.
Ils sont américains, donc du coup les américains, ils ont une politique vis-à-vis de la liberté d'expression qui est très différente de la conception qu'on a en France. Bref, depuis le mois de mai, Twitter teste un nouveau système que moi je trouve très intéressant pour faire la chasse à ces trolls. Donc depuis le mois de mai, si le comportement d'un utilisateur de Twitter est considéré comme problématique, alors c'est grâce à une analyse qui prend en compte plein de facteurs de type est-ce qu'il interagit avec des comptes qui ne le suivent pas, est-ce qu'il interagit avec des comptes qui ont déjà été bannis, etc. Et bah, si ils sont repérés par l'algo, leurs tweets seront placés automatiquement plus bas dans les résultats de recherche ou dans les recommandations des algorithmes de Twitter.
Des fois, on a une deuxième rubrique dans les réponses, alors d'autres réponses, j'imagine que ça
exactement.
Tombe là-dedans.
Et donc, du coup, ils tombent là-dedans. Donc, un peu une manière de les cacher, en fait, plus que de les supprimer.
Mais pourquoi Twitter ne cherche pas simplement à bannir ces personnes ?
Parce que c'est plus compliqué que ça, en fait. Beaucoup de trolls, entre guillemets, n'enfreignent pas vraiment les règles de Twitter. Ils participent à un mouvement de groupe, donc avec un ou deux tweets qui, pris tout seul, ne sont pas forcément très violents ou problématiques, parce que c'est l'effet de masse qui fait mal.
Voilà, donc l'extrait qu'on vient d'entendre nous montre qu'il existe du contenu indésirable, mais pas forcément illicite. Il pourrait être intéressant de légiférer concernant cette modération des contenus ou de trouver un système de modération automatique basé sur la communauté, permettant d'améliorer la transparence des outils et d'assurer un traitement démocratique de la modération, en ayant, par exemple, accès au code source du programme de modération. Bon, il ne reste plus qu'à convaincre les Facebook et les Twitter d'utiliser ça, mais bon. Selon l'article de Hubert Guillot et d'après cet extrait de podcast, la solution concernant la modération des contenus n'est peut-être pas dans l'amélioration des techniques et des méthodes de la modération automatique, mais peut-être dans une amélioration plus profonde, telle que la modification des plateformes elles-mêmes. L'article s'appuie notamment sur une étude de l'Université de Washington dévoilant des idées de conception différentes pour régler en partie les conflits sur Facebook. Parmi ces idées, on retrouve une alerte lors d'un post qui contient des mots violents ou l'impossibilité de répondre immédiatement à un post, forçant les utilisateurs à avoir une réflexion prolongée.
Merci beaucoup Nicolas pour cette partie très intéressante aussi. Alors écoute, c'est vrai que tu insistes pas mal sur le fait que la modération automatique c'est bien, mais donc ça a quelques limites que tu as présentées de façon très claire, et donc on comprend que ça fonctionne bien quand en fait c'est associé à un geste humain quand même, et tu parlais d'une modération aussi basée sur la communauté. Alors je vais te relayer une question de Dorian qui te demande est-ce que les utilisateurs jouent eux-mêmes un rôle dans la détection de contenu problématique et il te donne un indice via le signalement, par exemple. Est-ce que ça aussi, ça fonctionne bien ? Est-ce que c'est pris en compte aussi par les plateformes qui utilisent la modération automatique par ailleurs ?
Aujourd'hui, par exemple, sur Facebook, on a la possibilité de signaler un contenu qui nous semble embêtant, illicite. Alors, dans le cadre de Facebook, par exemple, ils utilisent ce qu'on appelle le conseil de surveillance de Facebook. C'est un organisme qui s'occupe de traiter tout ce qui est signalé par les utilisateurs ou par Facebook lui-même, et qui va statuer en fait sur est-ce que ce contenu est effectivement illicite ou non, est-ce qu'ils veulent le supprimer ou pas de Facebook. Et donc on a par exemple voilà, des organismes qui peuvent s'occuper de traiter ces choses-là. Alors sur Facebook, il me semble qu'on peut signaler un contenu qui est présent, un coup voudrait faire disparaître, mais on ne peut pas faire l'inverse, c'est-à-dire, alors faut que je réfléchisse.
Si je la refais à l'envers, alors redis-le, on va y arriver.
On peut signaler un contenu qui est présent, donc qu'on veut faire disparaître, mais on ne peut pas signaler un contenu qui s'est fait retirer et qu'on voudrait faire apparaître.
Je comprends, on n'a pas le droit de revenir sur quelque chose qui a été retiré, modéré.
C'est ça. Donc voilà, par exemple, pour Facebook.
Ok, c'est un bon exemple. Ok, merci Nicolas. Alors, j'ai une question qui est revenue à plusieurs reprises, donc qui peut s'adresser pour le coup à tous les quatre, hein, si vous avez des pistes là-dessus. Que se passe-t-il ? Là, on parle beaucoup de la modération des contenus plutôt textuels. Hein. Comment fonctionne la modération des vidéos ? Alors, on a l'exemple aussi de TikTok, hein, des médias sociaux qui fonctionnent uniquement donc, avec du partage en continu de vidéos. Alors, il y a de la modération sur ces plateformes-là. Est-ce que de la modération automatique existe aussi avec donc, des algorithmes également ? Est-ce que vous avez quelques pistes là-dessus en particulier ?
Oui. Il y a donc dans le cas par exemple de TikTok ou de ce genre d'application, il y a déjà des algorithmes qui vont traverser les tags des vidéos, puisque très souvent à partir des tags, on peut repérer des contenus qui peuvent parfois déranger. Après, il y a une analyse sonore et vidéo directement du média en lui-même, puisque certains algorithmes ont réussi à apprendre à reconnaître des images qui peuvent être violentes, ce genre de choses. Maintenant, ça se fait aussi pas mal au signalement. Et comme l'expliquait Nicolas, il est quasiment impossible de revenir en arrière sur un contenu qui aurait été supprimé. Et voire même, c'est très difficile d'avoir un contact humain dans ce genre de situation pour avoir un retour de pourquoi un contenu a été supprimé, ce genre de choses. Très souvent, on n'a même pas le retour exact, ça a été supprimé. Et ça peut être très drastique, sachant que certains contenus ne sont pas du tout supprimés. Il y a des questions qui se posent sur pourquoi un contenu, pourquoi un autre, et pour l'instant on n'a pas une satisfaction au niveau des réponses, puisque les entreprises ne sont pas très ouvertes sur l'explication de pourquoi tel ou tel contenu plutôt qu'un autre.
Oui, merci Guillaume, je vois que vous voulez compléter, allez-y Nicolas, Marin. Oui.
Après on peut se demander si Facebook par exemple préfère pas modérer plus et être tranquille et ne pas avoir être exposé à un problème médiatique en fait, plutôt que peu modérer et avoir des problèmes de gens qui se plaignent d'une modération pas assez forte en fait.
D'où un risque de censure et donc toujours avec ce problème qui est qu'on ne peut pas faire appel donc, d'une décision qui a été prise et on ne peut pas, même pas comprendre les raisons pour le coup de modération, d'actes de modération parfois donc abusifs, comme tu le disais aussi Guillaume, très bien. Messieurs, j'ai envie de poursuivre cette discussion avec vous, mais il est 17h15 et on a encore une partie aussi très intéressante à écouter, c'est celle de Guillaume, donc qui a pris la main tout de suite. Guillaume, tu vas nous parler d'un exemple particulier d'utilisation de la modération automatique dans le cas de Wikimedia. C'est à toi.
Et du coup, rebonjour à tout le monde. Suite à la discussion, donc oui, effectivement, je vais plutôt parler d'outils précis, donc ici de deux outils particulièrement. Notamment demandé par la Fondation Wikimedia, donc, que vous connaissez notamment grâce au site Wikipédia, que beaucoup d'entre nous ont déjà utilisé et que je pense est un outil très important. Et effectivement, sur cet outil, il peut arriver très fréquemment qu'il y ait des cas de modération nécessaire, que ce soit dans les commentaires au niveau des pages ou même dans les pages en elles-mêmes, qui peuvent être modifiées par à peu près n'importe qui, ce qui peut causer beaucoup de soucis aux personnes qui seraient lésées par la situation. Donc le premier outil dont je vais parler, c'est l'API Orange Ranking. Donc c'est un outil service de machine learning. Donc cet outil avait été commandé par la Fondation Wikimedia et il permet de créer un classement de pages selon leur utilité, leur bonne foi ou la mauvaise édition. Donc l'outil, il est nourri par des éditions de pages de Wikimedia ou Wikipédia sur lesquels des volontaires, que ce soit des personnes qui travaillent pour la fondation, des particuliers qui n'en ont rien à voir, vont noter avec des attributs qui sont « damaging a good faith » sur des pages pour donner la teneur de « est-ce qu'une page a été modifiée de manière très, très bien écrite ou est-ce que le but était justement de faire des dommages ?» Et du coup, selon l'édition de ces pages, on applique cet algorithme de machine learning qui va trouver un comportement global et permettre de juger si une édition va être mauvaise ou non. Qui existe avec plusieurs services, qui peut même aller jusqu'à suggérer aux personnes qui sont en train de faire une édition des alternatives à ce qu'ils sont en train de faire, puisque ça peut apporter un mauvais comportement. Donc ça, c'était le premier outil que la Fondation Wikimedia a financé et a demandé. Mais cet outil, il concerne uniquement les éditions et il demande beaucoup de données créées par des personnes humaines pour être nourries et pouvoir reporter un comportement. Là où, avec le deuxième outil, qui s'appelle Automode, donc qui a été réalisé par l'Université de Virginie en partenariat avec Wikimedia, puisqu'ils ont un Wikimedia Research Lab dans cette université. Ils ont travaillé sur ce nouvel outil, ce qui est un projet de détection automatique des mauvais comportements en ligne. Donc on donne à cet algorithme plus d'1,1 million de profils différents de personnes qui ont été bannies au fur et à mesure des années sur Wikimedia, avec des données de pourquoi ils ont été bannis, données par les modérateurs qui étaient humains à la base. À partir de toutes ces données, c'est impossible d'en traiter autant, mais une bonne partie a été gardée pour pouvoir faire justement un traitement plus approfondi et déterminer un profil type d'une personne qui voudrait justement proposer du contenu haineux ou dommageable pour la plateforme. À partir de cet algorithme de machine learning et le comportement répété par les humains, un profil typique donc des mauvaises intentions est mis en place et de là on dresse une liste des utilisateurs qui devraient être bannis et surtout une liste des utilisateurs qui pourraient être bannis par la suite à leurs actions. Donc pour parler de ça, je proposais un extrait du groupe de recherche qui a créé cet outil et qui explique un peu plus en détail les fonctionnements de l'algorithme.
The goal for us was to create a model which predicts the toxicity score for each user comment. And for that, we used all the different data sources which Charu just talked about. And when we started with it, we faced broadly three main challenges. First of them was data cleaning and pre-processing. So the data consisted of a lot of Wikipedia-specific lingos and terminologies, and then it also consisted of special characters and other texts which weren't of importance for our model. So we had to do a data cleaning. The next problem was ground truth labeling. We know a user got blocked, but we don't know which comment led to a user getting blocked. They might have done something blockworthy a day before or a week before. So getting the specific text which led to a user getting blocked was problematic for us. So we did a lot of work to do the labeling. The next problem was class imbalance. So by inherent nature of the blocked users, the percentage of blocked users were less than 1%. So to create a model which was robust in identifying them, we had to upsample them and essentially get to a ratio of around 30 to 70%.
Donc voilà, avec cet extrait, on se rend compte des difficultés que rencontre un tel outil et de travail en amont de recherche pour comprendre le comportement de quelqu'un qui pourrait d'un coup être banni et donc dans sa manière de faire. Donc cet outil présente des points positifs et des points négatifs. Notamment dans ses points positifs, c'est un outil qui aide la modération humaine. Clairement, il est très facile à appliquer en fait. C'est un outil qui est créé par petits blocs qui vont eux-mêmes se gérer les uns les autres et donc il demande très peu d'entretien sur le long terme et se nourrit lui-même de données, donc il est de plus en plus le temps avance, plus l'outil est efficace. Mais ça apporte quelques soucis. Donc bon, déjà le remplacement des humains modérateurs complètement sur certaines phases, donc ça fait qu'on a plus ce retour plus sentimental de l'humain qui, pour comprendre une situation. Et créer les structures de base pour appliquer convenablement l'outil, c'est quelque chose de très difficile et de très coûteux. Donc, une fois qu'il tourne, c'est bien, mais avant, en amont, il y a un grand travail à faire. Et ça pose beaucoup de questions sur la disparité entre les cas. Donc, d'un cas à un autre, un humain ou un autre peut considérer qu'il y a un blocage ou non. La machine va trancher et on n'a pas forcément le détail de comment elle va trancher, comment ça va être fait. Du coup, on a un modèle comportemental qui est extrait de beaucoup de données, mais qui n'est pas forcément adapté à chaque situation. Et du coup, on obtient une grosse controverse sur un outil, notamment sur le libre arbitre de chaque personne, puisque on peut très vite entrer dans la censure si derrière la société décide de modifier certains critères sans prévenir les utilisateurs. On peut très vite entrer dans une censure sans être mis au courant de telles choses, et notamment sur un outil qui n'a pas été prouvé avec le temps comme aurait pu l'être d'autres outils.
Merci beaucoup Guillaume pour cet exemple donc très, très intéressant qui parle donc d'une étape là où on va un petit peu plus loin dans la modération, c'est-à-dire que là tu parles d'un outil qui fait concrètement de la prédiction de comportement et qui essaie donc d'anticiper un maximum les comportements problématiques donc selon certains critères qui sont fixés au départ et puis voilà, l'idée c'est d'essayer de couper l'herbe sous le pied de certains utilisateurs classés comme malveillants par la Fondation Wikimedia. Donc ça c'est très intéressant. Il y a Elliot qui se posait une question un petit peu plus tôt et donc je vais te la relayer maintenant et essayer de l'adapter à cet exemple que tu nous proposes. Elliot se demandait si aujourd'hui il existe des régulations juridiques à propos des algorithmes de modération automatique, notamment pour protéger la liberté d'expression des utilisateurs. Tu nous parlais de cette problématique du libre arbitre. Voilà, et c'est vrai que cette question d'un cadre légal, d'un cadre juridique qui encadrerait ces outils-là, notamment dans le cas d'outils qui font de la prédiction de comportement, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est quand même nécessaire. Est-ce que tu sais si ça existe déjà, ce genre de cadre légal ?
Alors, notamment dû à ma lecture du livre de Romain Badoir qui parle justement de cette histoire de censure de l'Internet, qui met notamment en avant qu'il y a beaucoup de problèmes dans le cadre juridique. En fait, il n'y a pas d'entité globale qui va fixer si oui ou non c'est de la censure. Et malheureusement, c'est beaucoup plus local, donc déterminé au pays, ce qui va causer beaucoup de soucis, comme il y a pu y en avoir pour Facebook, qui a décidé de localement censurer certaines... Par exemple, c'était un exemple avec un parti d'extrême gauche qui avait été censuré en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, et dont Facebook n'a jamais donné l'exemple de pourquoi. Et pour ces cadres-là, il n'y a pas d'entité supérieure actuellement. Cependant, il émettait l'idée que la communauté européenne, par exemple, étant déjà une communauté beaucoup plus globale et plus à portée beaucoup plus mondiale que simplement un pays, pourrait commencer avec, par exemple, avec les lois qu'on connaît sur le RGPD, par exemple, de mettre en place des règles plus logique et partagé par tous les membres plus qu'un cadre où chacun fait un peu ce qu'il veut et malheureusement c'est localement qu'on va gérer, puisqu'une entreprise comme Facebook qui est une entreprise américaine sera jugée uniquement sur le territoire américain alors que le mal a été fait par exemple en Allemagne et du coup ça pose énormément de problèmes qui ne sont pas encore réglés aujourd'hui.
Merci Guillaume. En effet. Merci pour cette réponse documentée. En plus, tu faisais référence, je cite, au livre Les nouvelles lois du web de Romain Badoir. Merci pour cette réponse aussi très intéressante. Eh bien, écoutez, tous les quatre, merci beaucoup pour votre présentation sur la modération automatique. Je le répète, on pourra réécouter votre intervention sur l'instance aperi.tube. C'est une instance peertube, donc du partage de vidéos. Aperi.tube, je le répète, chaîne WE1. On retrouvera votre intervention par là. Vous pouvez aussi venir faire un tour sur librecours.net pour retrouver tous les supports de cours de WE1. Et puis, écoutez, on va se retrouver dans quelques instants pour écouter la dernière présentation de la journée. Ce sera avec Tom Jumel, Lucas Gorek et Merwan Bourri. On parlera de la communication scientifique sur les médias sociaux. À tout à l'heure.